rappeler le nom d'Armel, si tu veux bien.
Ouais, je suis là.
C'est ça.
Ici. Ah oui. Au nom d'Armel et Pepo, merci d'accueillir ce projet que j'ai initié auprès des conteurs, conteuses en présence ici et des 40 autres qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont à Dakar, en Algérie, au Québec ou pris par leur propre spectacle également autour de Yem. Yem s'appelle Yem parce que sa première phrase en français a été « Moi, j'aime bien ça », fondant donc son identité sur le verbe d'aimer, de se relier avec ce qu'on ne connaît pas encore, avec celle ou celui qu'on ne connaît pas encore. C'est l'acte de découverte, le premier pas qui sort d'une certaine forme de solitude pour aller à la rencontre de l'autre dans une idée de créer. Voilà. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on va continuer demain et après-demain. Et merci de vous joindre à nous pour cette petite improvisation comptée ce soir avec Patrick. Avec donc Patrick Fishman.
Juste une petite intro, une petite préambule.
Qui va nous faire une petite préambule. Patrick Fishman, dont vous pouvez retrouver bon nombre des écrits aux éditions du Seuil, au Conte des Sages. Les Contes des Sages qui rêvent, c'est le dernier qui vient de sortir.
C'est le plus récent, c'est pas le dernier.
Pardon, oui. c'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Ce soir, qui intervient d'autre? Karine Kasperian, Frida Moronet. Qui intervient d'autre ce soir? Pepo, Odigan, avec un petit intermède musical. Françoise Barret, qui intervient d'autre ce soir. Philémon Garcia, avec Fauve. J'ai oublié ton nom de famille.
Moi, mon nom de scène, c'est Faleta.
D'accord, avec Faleta, alors. Avec Faleta, pour cette petite scène improvisée. Et il n'y a pas d'ordre. C'est au moment où, voilà, pour toutes ces personnes-là, au moment où, peut-être, tu peux faire la conclusion, hein, on ne sait jamais.
Non, non, non. Moi, c'est l'apéro.
Qui superpose comme ça. Et puis tous les autres aussi, s'il y a un moment où vous sentez que c'est votre moment, l'espace est libre.
Même s'il y en a un qui raconte en même temps.
Voilà.
Surtout s'il y en a un qui raconte. Même au moment, on le joue à l'impro. Même si c'est en cours de raconter, est-ce qu'on peut s'accorder le droit entre nous que d'être interrompu même si on est en raconté? Oui.
Après, j'en
t'ai
dit.
Oui, non, mais lui, il est pressé. Donc, justement, Nasreddin, j'ai une petite histoire pour commencer. Nasreddin avait l'habitude d'être devant sa maison avec comme seul horizon le désert. Rien, rien, rien. Et dans ses poches, à part des trous, rien, rien, rien. Et c'était vraiment le grand rien à ce moment-là dans sa vie. C'était plutôt que rien, c'était vraiment la merde parce qu'il y avait des crottes de dromadaires devant lui. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Et ça lui donne une idée. Il ramasse toutes les crottes de dromadaires. Il rentre chez lui, il installe les crottes de dromadaires par rangées de 10 sur sa table de la cuisine. Il prend de la farine, il roule les crottes dans la farine, blanche, immaculée. Il prend du gingembre, curcuma, safran, de la coriandre, il fait des petits paquets de bonbons, des paquets de 10, des paquets de 25, des paquets de 50. Le lendemain matin, 6h du mat, il est sur la place du marché. Avec ses bonbons alignés, ses paquets à côté, pilule d'intelligence. 1000 dirhams. Là, il y en a deux qui passent, qui connaissent très bien Nasreddin, qui s'installent à la terrasse du café, comme là, vous, bien posément, pour voir comment ça va se passer. Puis il y en a un autre qui passe, qui voit pilule d'intelligence, 1000 dirhams. Lui, il sait qu'il a 56, 57 dirhams dans sa poche. Et il se dit, non, vraiment, l'intelligence, c'est trop cher pour moi. Mais il continue. Il y a l'autre qui a 56, 57 000 dirhams dans sa poche, qui voit sa pilule d'intelligence, 1000 dirhams, et qui regarde autour de lui. Si jamais ça devait savoir qu'il était obligé d'acheter son intelligence. Et comme on est en train de le regarder, il rentre chez lui. Et puis, il y a celui qui a 56 et 57 000 dirhams dans sa poche et qui s'en fout du candidat, qui va voir Nasreddin. Et qui dit alors, ça, c'est des pilules qui donnent l'intelligence. Il dit, oui, c'est marqué dessus, c'est des... T'as de l'intelligence. Il dit, ouais, mais attends, à ce prix-là, c'est une intelligence de 2 minutes, hein, c'est tout. va pas durer longtemps. Il dit, ah non, c'est de l'intelligence, c'est, même ton fils, il en aura. Comment ça, mon fils? Il dit, ouais, je connais cette histoire-là, il n'y a que lui qui en aura, et moi, j'aurai rien du tout. Non. Ça commence tout de suite, et ça va jusqu'à ton fils. 1000 dirhams? Il dit, oui. Et je peux choisir? Oui. Ok, il met les 10, il choisit, il goûte, il dit, eh oh, c'est de la merde, ça, hein? Il dit, ah, tu vois, ça commence. Ah, tu vois, ça commence. C'est pas de la merde, hein.
Merci pour la belle image. Au premier jour du monde, nous étions tous ensemble dans l'arbre. Nous autres, les humains, ne séparions pas la fleur, l'antilope ou l'homme. Nous étions les enfants du même rêve. Le soir, nous mangions le soleil en écoutant le chant de la terre. Nous autres, les humains, ne savions pas que nous allions quitter la sérénité de l'arbre, nous désunir et pour tout dire nous embrouiller. Nous ignorions qu'un jour nous penserions la terre inerte et ne sentirions plus l'âme du monde. Mais les oiseaux, eux, le pressentaient. Ils se préparaient pour prendre soin de nos premières images et protéger le songe vital des génies. Ils savaient que les contes résisteraient à tout, au temps, à la séparation, à l'oubli, murmurant notre parenté avec tout ce qui vit, nous escortant dans un monde dénaturé pour nous protéger du tumulte et de l'ignorance, des contes, continuant de gazouiller et rire devant la peur et l'absurdité, des contes qui flottent comme des barques et nous conduisent au-delà des tempêtes vers des rivages oubliés. Alors voilà qu'un jour, près de la source, le oiseau donna rendez-vous à tous les oiseaux. Il y avait là l'arbre florissant, et sur cet arbre, il y avait des contes. Et le oiseau dit aux oiseaux, « Eh bien, oiseau, si un être humain bute et tombe, il faudra bien qu'un conte soit là pour le relever, la parole d'un chêne, la confidence d'une fontaine. Alors prenez un conte dans vos becs et envolez-vous vers le vaste monde. » Alors les oiseaux sont montés dans l'arbre et chacun a pris un conte dans son bec. Et c'est ainsi que sont venus à nous les contes pour nous réveiller. Or ce jour-là, dans l'arbre florissant, il y avait un vieux hibou. Et lui, il avait vu un œuf de parole. Alors il s'est dit, c'est pas la peine de s'envoler, il faut attendre que l'œuf éclose, qui vienne au monde. Et il est resté. Certains disent 1000 ans, d'autres 2000 ans, d'autres bien plus encore. Et je vous raconte cette histoire parce que ce matin, dans l'arbre florissant, le vieux hibou a entendu des bruits sous la coquille, il a vu sortir un oiseau, tout décoiffé avec un morceau de coquille sur la tête, le canari de l'amour. Je laisse maintenant les autres parler, et à travers eux, c'est aussi le canari qui va parler. Voilà.
C'est le moment de qui?
Je me dépouille. J'arrive.
Il y a un village. Au milieu du village, il y a une église. Derrière l'église, il y a un champ de maïs. Derrière le champ de maïs, il y a une forêt. Et tout au fond de la forêt, il y a une rivière. Et au bord de cette rivière, il y a une maison. Une maison sans toit. une maison à ciel ouvert. Les anciens disent que cette maison est hantée, que celui qui rentrerait à l'intérieur en sortirait transformé. Mais personne n'ose s'approcher de cette maison, parce qu'au moment même où on la voit, on n'entend plus le vent qui souffle dans les arbres, on n'entend plus la rivière, on n'entend plus les oiseaux qui chantent. On entend juste un silence. Un silence qui assourdit tous les bruits qu'on a dans la tête. Et un silence, ça fait peur. Alors on court. On court à la recherche d'un bruit. Tout à coup, on entend les oiseaux qui chantent, le vent qui souffle de nouveau. Mais tous ces sons ne sont que le prolongement de ce silence-là. Et le vent qui souffle, arrête-toi, ce silence était pour toi. Alors on continue à courir à la recherche d'un bruit. Quand on arrive au village et qu'on entend un bon bruit de voiture, on se sent sauvé. C'est comme ça qu'on a interdit l'entrée dans cette forêt, car cette forêt est dangereuse. Elle abrite le silence. Pourtant, il y en a une qu'on voit toujours s'approcher de la maison, s'enfoncer dans la forêt. C'est Odette, la sage-femme du village. On dit qu'elle est toujours là, qu'elle a mis au monde les enfants, les parents, les grands-parents. On dit qu'elle n'a pas d'âge. Et cette maison, elle la connaît très bien. Ça, c'est la maison d'Adrien. Adrien, c'est la naissance la plus étrange que j'ai connue. Quand il est né, il ne pleurait pas, il souriait. On avait même l'impression qu'il était en train de rire. C'est comme s'il écoutait quelque chose. Parce que quand un enfant naît, il entend toujours une mélodie. Mais la plupart du temps, il oublie. Mais Adrien, c'était comme si la mélodie et lui ne faisaient qu'un. Comme si elle s'était coincée dans son sourire. Quand Adrien était petit, aucun son ne sortait de sa bouche. Il avait la tête ronde comme la lune, comme son grand-père, et il souriait toujours. Mais il y avait quelque chose qui l'attirait. C'était dans le salon, un immense piano. Un piano à queue. Mais c'était pas n'importe quel piano, ce piano-là. C'était un piano tableau. Est-ce que vous savez ce que c'est un piano tableau ? C'est un piano, je suis sûre que vous en avez déjà vu. C'est un piano qui est toujours dépoussiéré, qui est astiqué. En fait, c'est un piano qui est là pour épater les invités. Et un jour, le petit Adrien n'a pas résisté. Il a ouvert, il a appuyé sur une touche. Adrien, un piano, ce n'est pas fait pour jouer. À partir de cet instant, on a fait en sorte que Adrien ne s'approche plus du piano. On a mis des barrières. Alors le grand-père, quand il a vu ça, il a pris Adrien par la main, il l'a emmené dans la forêt, il a coupé du bois, il lui a confectionné un joli petit piano en bois aux touches multicolores. Adrien ne parlait toujours pas, mais quand on lui posait une question, il répondait par une note de musique. Et si on lui demandait quelque chose qui demandait une réponse plus longue, il répondait par une mélodie. Alors ça inquiétait beaucoup les gens dans le village. Parce qu'il y avait quelque chose de très important, ce qui peut arriver parfois, c'était la normalité. Il fallait être comme les autres. Alors Adrien, avec ses mots en notes de piano, ça faisait jaser. On disait qu'il était étrange, qu'il était bizarre, pas comme les autres. Alors on évitait de s'approcher de la maison. Mais le grand-père, lui, était fier de son petit garçon. Souvent, il en est tout au fond dans la forêt au bord de la rivière. Lui pêchait et Adrien l'accompagnait avec son piano aux touches multicolores. Parfois, le grand-père s'arrêtait. Écoute, Adrien, regarde, le vent dans les arbres. On dirait qu'il est en train de te répondre. Et un jour, ils ont commencé à dormir
dormir sous le ciel étoilé. Et là, le grand-père lui disait toujours cette même phrase. Adrien, ne mets jamais de barrière entre le ciel et toi. Adrien laissait résonner les phrases de son grand-père dans son cœur. Et un jour, alors qu'il rentrait de la forêt et que Adrien était en train de jouer sur son petit piano de bois, il y a monsieur le curé qui a entendu ça.
Oh ben c'est beau ce que tu joues, Adrien.
Mais à côté, il y avait monsieur le facteur. Alors quand il est allé faire sa tournée, il a raconté à tout le monde. Vous savez quoi? Le petit fou d'Adrien. Le curé a dit qu'il jouait bien. Ah ben, si monsieur le curé le dit, c'est que c'est vrai. Alors, les gens ont commencé à s'approcher de nouveau de la maison et ils sont même rentrés dans la maison, ils ont écouté Adrien. Et c'est vrai qu'il jouait bien. Quand on lui faisait écouter une musique, il la reproduisait. Non. Il lui répondait. Et au bout d'un moment, ben, il y avait de plus en plus de monde qui venait écouter Adrien, alors on l'a installé en face du piano à queue. Parce que maintenant, on ne venait plus admirer le piano à queue, mais on venait admirer le tableau d'Adrien en train de jouer sur le piano tableau. Il y avait quelque chose qui changeait. Chez Adrien, c'était là, dans son sourire, deux petites pointes d'orgueil qui commençaient à grandir. Et un jour, après un concert, Adrien a dit son premier mot, merci. Alors les parents étaient heureux parce que, d'une part, ils avaient un petit génie, mais un petit génie qui parle, c'est mieux. Le grand-père, lui, a eu l'air triste. Il est sorti de la maison. Mais de toute façon, Adrien avait une carrière qui l'attendait. Alors, il habitait dans le coin de Néon, sur Creuse, mais là, on l'a emmené à Paris. À 15 ans, il avait traversé de nombreux pays. Il était allé en Italie, en Arménie, aux États-Unis, en Australie et même à Chicoutimi. Ça, c'est au Canada. Mais Adrien ne souriait plus du tout. C'est comme s'il cherchait une mélodie oubliée. On disait que c'était un des plus grands musiciens, mais aussi un des plus tristes. Et un jour, on l'a invité de nouveau dans son village d'enfance. Parce qu'il fallait fêter l'église qui avait enfin été réparée. On avait installé à l'intérieur le magnifique piano-tableau. Et Adrien s'est approché du piano. Mais au moment de jouer, impossible. Alors on l'a vu partir de l'église. Il a traversé le champ de maïs, il a traversé la forêt et s'est retrouvé au bord de la rivière, là où il pêchait avec son grand-père. Et là, il s'est endormi. Et quand le jour ouvrait la nuit au premier rayon du soleil, il a entendu la mélodie, sa mélodie, et il l'a jouée avec le vent. Il est resté encore une nuit, il a dormi profondément, et quand le jour ouvrait la nuit au premier rayon du soleil, il a encore entendu sa mélodie. Il l'a encore jouée avec le vent, et il s'est rendormi. Il a dormi profondément quand le jour ouvrait la nuit au premier rayon du soleil. Il s'est dit que cette mélodie était tellement belle qu'il allait être plus connu que Mozart. Alors il est rentré chez lui. Mais impossible de se souvenir de la mélodie. Il a annulé tous ses concerts. On a dit qu'il était en train de devenir fou. Il cherchait cette mélodie oubliée. Et il a cherché des jours et des nuits, et il s'est rappelé des trois nuits qu'il avait passées au bord de la rivière, et il s'est rappelé de son enfance quand il allait pêcher au bord de la rivière avec son grand-père. Il s'est rappelé des phrases de son grand-père, parce qu'il y a des phrases patientes, qui sont comme des graines, qui attendent que la terre soit fertile pour pouvoir germer. Et ça, c'était les phrases du grand-père. Et il entendait « Adrien, ne mets jamais de barrière entre le ciel et toi. Adrien, ne mets jamais de barrière entre le ciel et toi. Adrien. » Adrien a eu une envie folle de regarder le ciel étoilé. Il a levé la tête et il a vu son plafond. Ce jour-là, on l'a vu partir avec un sac sur le dos, marcher, arriver dans son village, traverser le champ de maïs, la forêt et au bord de la rivière. Il a construit une maison sans toit, une maison à ciel ouvert. Et chaque matin, quand le ciel ouvrait la nuit au premier rayon du soleil, il entendait la mélodie et il la jouait sur son petit piano de bois. Les gens dans le village ont commencé à dire qu'il était redevenu fou. Mais il y en a qui venaient se cacher derrière les arbres pour écouter la mélodie. Il y avait Odette, la sage-femme, qui était toujours là. Et Pierrot l'ivrogne, alors lui, il était toujours là parce que ce qu'on pouvait dire de lui, on en avait tellement dit. Et chaque jour, la mélodie était de plus en plus belle et les gens venaient de plus en plus nombreux. Et au bout d'un moment, c'était devenu le rendez-vous du village. Et le temps a passé. Et Adrien a eu son dernier matin. Il s'est approché du piano, il a effleuré les touches, il a commencé à jouer. Jamais la mélodie n'avait été aussi belle. Les notes s'enchevêtraient, coulaient comme une rivière, et au bout d'un moment, elles se sont unies en une seule note, une note blanche qui s'est transformée en silence. Et comme le blanc contient toutes les couleurs, cette note blanche contenait toutes les mélodies. Et c'est depuis ce temps qu'on dit que dans ce village-là, les gens sont étranges, bizarres, pas comme les autres. Serge, le curé, celui qui voulait être chanteur de rock quand il était petit, il fait maintenant ses homélies à la guitare électrique. Richard, le poissonnier, il n'est plus poissonnier. Il est devenu dresseur de truites. Mais le pire dans tout ça, c'est Pierrot l'ivrogne. Il est même plus ivrogne. Vous vous rendez compte? Non, mais franchement, un village sans ivrogne? Il est devenu sculpteur. Il sculpte des fontaines d'eau. Odette, elle, n'a pas changé de métier, mais depuis ce jour-là, on dirait qu'elle n'a pas d'âge. Du temps d'Adrien, il ne reste plus qu'elle. Elle continue de mettre au monde les enfants, mais quand on lui demande ce qu'elle fait, elle ne répond jamais qu'elle met au monde des enfants. Elle répond toujours « Je mets au monde des mélodies. »
Maintenant, oui, Philémon et Fauve. Et Faletta, pardon.
Faletta.
Mets-toi plus par moi.
Est-ce qu'on t'entend bien aussi? On peut essayer le son?
Check ça.
Bonjour. Bonjour. Ça va, ça va, ça va. Bonjour, je m'appelle Philémon, je viens de la Drôme.
Oh,
cher. Moins loin que certains, mais quand même. Il était une fois au sud du Maroc, dans le désert du Sahara.
Sahara.
Comme elle dit. Il y avait une grande palmeraie. On n'a jamais vu d'aussi grande palmeraie. Et quand on travaille, traverser cette palmeraie, il y avait une grande orangerie avec tant d'oiseaux que c'était beau les champs. Et après l'orangerie, il y avait un désert de verre, un désert, un palais de verre, un palais lumineux, un palais soleil. Si on montait l'escalier, on arrivait dans la grande salle royale. Et là, il y avait des musiciens. Il y avait des invités. Il y avait ripaille. Il y avait sourire. Et le roi était là, au milieu de l'assemblée. À sa gauche, il avait ses 6 fils. À sa droite, il avait sa fille. Elle était belle. Visage ovale, les yeux en forme d'amande, des cheveux très longs. Elle respirait l'intelligence. Et le roi flattait sa fille, comme savent parfois le faire les pères. Il la flattait, il disait, tu es l'étoile dans mon ciel, ma fille, tu es le plus beau grain de sable de mon désert. Tu es la prunelle de mes yeux, tu es la fille la plus intelligente que j'ai jamais vue de ma vie. Tant de compliments qui ne veulent rien dire, vous savez ça. Vous savez que les mots parfois ne sont pas justes. Ils sont désaccordés comme l'instrument de musique. Les mots ne disent pas forcément ce qu'on veut dire. Et ce qu'on veut dire parfois c'est maladroit. Bref, je vous fais court. Cet homme, on ne sait pas comment ça lui a pris dans la tête. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas parce qu'on ne comprend pas tout dans les histoires. Hein. Vous savez ça, ça vous le savez. Dans la vraie vie aussi, on ne comprend pas tout. Mais dans les histoires, c'est vrai. On ne sait pas comment ça s'est passé. En tous les cas, à un moment, il a eu ce cri vers sa fille. « Va-t'en au diable !» Chercher dans le désert, on l'a cherché dans l'orangerie, dans la palmeraie. 7 jours et 7 nuits, tout le monde l'a cherché, la jeune fille. Il a bien fallu se rendre à l'évidence. Elle avait disparu. Alors la vie a repris, vous savez ce que c'est, le train de la vie, comme vont les choses. Il y en a un qui ne se résignait pas à l'absence de la princesse. Bon, je donne mon avis de conteur et d'homme. Personnellement, je pense qu'il avait de l'affection pour la jeune fille. Il est allé voir le roi, cet homme, un homme aux cheveux blonds. Et il a demandé un cheval blanc pour aller chercher la princesse. Imaginez. Je donne encore une fois mon avis de conteur et d'homme. Je trouve que le cheval, c'est moins pratique que le chameau dans le sable. Mais bon, tout le monde s'en fiche. Donc, on lui a donné le cheval blanc. Vous vous rendez compte? Et il a tracé dans le désert. Tracé, vous savez ce que c'est? Tracé une ligne droite dans le désert. Il est allé vers l'est. Il a chevauché longtemps, très longtemps. Très longtemps, jusqu'à midi. À midi, il était sous un nuage noir. Sous le nuage noir, il y avait un château noir. Il y avait des gardes. Ils étaient habillés en orange. Et ils l'ont laissé rentrer. Il était comme invisible aux yeux des gardes. Ils l'ont laissé passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, il est rentré entré dans ce château, il a monté l'escalier et il est arrivé dans une grande salle de repas. Les musiciens étaient tristes, la nourriture dans les assiettes était triste, les gens, ils avaient l'air tristes. Et le jeune homme aux cheveux blonds, en regardant ce tableau, il a repéré le maître des lieux, un homme habillé en noir. Et à côté du maître des lieux, il y avait la jeune princesse disparue. Son visage était éteint. Elle était si triste, si vide. Alors, vous savez, il s'est mis un coin de la porte d'entrée de cette grande salle. Et puis, avec ses yeux, avec son regard, il a essayé d'attirer la jeune fille. Vous savez, des fois, on fait ça. Mais vous savez aussi que ça ne sert à rien. Ça ne marche jamais, cette histoire. C'est vrai, ça n'attire jamais personne. Bon, bref, il a fallu attendre, parce que parfois la raison réside dans la patience quand même. Il a attendu un bon moment, et puis la jeune fille s'est levée, sans doute pour aller dans ses appartements. Elle est passée près de lui, et lui, « Princesse, 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 je suis le messager de votre père, du roi. Depuis que vous avez disparu, on vous pleure, on vous attend, on vous espère. Princesse, comment faire pour vous faire évadé de ce château maudit? Comment faire? Où est votre chambre? Combien de draps pour faire une corde? Enfin, voilà, c'est un homme, hein, il a des recettes d'homme. Mmh. Et elle lui dit, mais mon esprit est si vide depuis que mon père m'a banni. Je ne comprends pas tes mots, je ne comprends pas tes phrases, je ne comprends pas tes solutions. Et puis elle, et lui, il l'encerclait d'idées faramineuses d'hommes, quoi. Donc, pour faire échapper par la toiture, par tout ça. Et puis, à un moment, enfin, ce qui a l'intérêt, c'est que les paroles ne noient pas toujours. Les paroles vous font secouer la tête, en fait. Et la jeune fille a secoué la tête. Et en secouant la tête, elle a pensé, oui, le maître des lieux m'a dit que seul pourrait me libérer celui qui saura rester éveillé. Alors, je sais ce que tu vas faire. Alors, je vous le dis comme ça, on est entre deux portes et tout, on est coincé contre le mur, et je vous parle comme ça, en fait, comme elle lui a dit au jeune homme. Je sais ce que tu vas faire. Tu vas retourner dans le désert. Fais partir ton cheval. Installe-toi entre trois dunes de sable. Tu ne feras rien dans le désert. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne parleras à personne. Tu nettoieras ton âme et ton esprit. Dans un an, jour pour jour, tu reviendras vers ce château maudit qui est le château du vilain. Et là, ce jour-là, si tu sais rester éveillé, mon jeune ami, alors nous pourrons nous retrouver. Elle a dit ça, tout comme ça, comme je vous l'ai dit là. Et puis lui, quand elle est partie, ben, il est resté là, immobile, à se rappeler ce qu'elle disait, quoi, en fait, parce que des fois, on a des problèmes de mémoire, quoi. Alors, il s'est répété les phrases qu'elle a dites. Elle a dit plusieurs phrases, si vous avez fait attention. Et puis, il a quitté ce château maudit. Il a chevauché vers le désert. Entre trois dunes de sable, il s'est installé. Il a fait partir le cheval. Il avait peur de lui parler. Et puis, toute la journée, il s'est mis à genoux sur le sable chaud, à visiter toutes les pièces dans son esprit, à laisser passer le temps. Vous savez ce qui fait le temps? Justement, il passe. Et ça a passé quand même. Lentement. Une année sans manger, sans boire, sans parler à personne. Juste marquer les jours avec son doigt, une trace dans le sable. Et les jours passent. quitté son coin de désert. Voilà, 365 traits. Et il est retourné vers le château maudit. C'était facile, il y avait le nuage noir toujours au-dessus. Mais quand on est à pied, c'est pas le même chemin qu'à cheval. Parce qu'il est arrivé devant un verger qu'il n'avait pas vu quand il était à cheval. Et quand il a vu le verger, il a vu un pêcher. Quand il a vu un pêcher, il a vu des pêches. Et quand il a vu les pêches, il a mangé une pêche. Et il a dormi immédiatement. Au pied de l'arbre, il est tombé. C'est passé comme ça. Alors elle, bien sûr, elle avait compté les jours d'une manière ou d'une autre dans sa chambre. Et elle passait là avec ses serviteurs. Et quand elle a vu le jeune homme endormi au pied de l'arbre, elle essayait de le réveiller, ça ne marchait pas. Alors elle a pleuré. Elle a pleuré, elle s'est désespérée. Elle a enlevé le voile qui était dessus ses cheveux. Et elle a fait un message avec ses larmes. Tu me retrouveras sur la montagne dorée, là où toute chose est précieuse. C'est ce qu'elle a marqué. Et elle a laissé le voile sur la poitrine de l'homme. Elle ne pouvait pas savoir qu'il allait dormir 70 ans. Elle ne pouvait pas savoir. Jeune, tellement il a purifié son âme et son cœur. Le jeune homme s'est réveillé. Sur son torse, il y avait ce voile. Il a lu le message. Tu me retrouveras sur la montagne dorée, là où toute chose est précieuse. Alors il s'est levé, il s'est dit je sais où elle est. Et puis il s'est rassis. Parce que la montagne dorée, il ne sait pas où elle est en fait. Alors il a demandé au serpent, au scorpion, à la hyène, où était la montagne dorée? Aucun ne savait. Mais le conseil de ces trois animaux, ça a été de visiter les trois vallées. Il s'est mis en marche. Vers l'est, vers le centre de l'Afrique. Vous savez sûrement qu'au centre de l'Afrique, il y a trois immenses cratères. Il est arrivé dans le premier cratère, une grande vallée où on rassemble tous les animaux du monde. Ils sont tous là. Et le roi des animaux, il leur a dit, est-ce que dans vos voyage, vous avez vu la montagne dorée, là où toute chose est précieuse. Tous les animaux ont crié, aboyé, giraffé, trompété, rhinocérosé, que non, ils n'avaient pas vu la montagne dorée, là où toute chose est précieuse. Vers l'est encore, à la deuxième vallée, sont rassemblés tous les oiseaux de la terre. Ils sont tous là. Et ils écoutent le roi des oiseaux. Quel est-il? Le roi des oiseaux qui leur demande si dans leur vol, ils ont vu une montagne dorée là où toute chose est précieuse. Et tous les oiseaux, ulule, baline, choses et précieuses. Il a encore marché vers l'est. Il est arrivé dans la vallée des vents. Et dans la vallée des vents, ça souffle. Et le roi des vents a demandé, Est-ce que dans vos souffles, vous avez vu la montagne dorée, là où toute chose est précieuse? Tous les vents soufflaient, burlaient, siroquaient, mistral et tramontanés. Que non, vous n'avez pas vu la montagne dorée, là où toute chose est précieuse. Mais c'est un échec. Le jeune homme s'est assis sur un rocher. Il avait expérimenté d'aller loin dans son esprit. Et là, il a fermé les yeux. Le sable était chaud sous ses pieds. Il a visité tout son esprit. Il y a tant de pièces dans notre esprit. Il est arrivé dans une pièce, vous savez, la pièce d'amour et d'espérance. Cette pièce, il faut y garder la lampe allumée. Il le sait, lui. Il faut garder la lampe allumée. Il était bien dans cette pièce. Une pièce d'espérance. Et puis... C'est un petit vent. Un petit vent qui est arrivé comme ça. Un petit vent essoufflé. Il s'est assis à côté de l'homme. Et il lui a dit, vous avez entendu la question? La question, vous l'avez entendue, vous? L'autre, il ne comprend pas de quoi il parle. Mais on m'a dit qu'il fallait venir pour la question. Mais j'avais du travail, j'arrive un peu tard. C'est vous qui posez la question? Mais vous êtes qui, vous, d'abord? Stalker, il dit. Stalker.
Stalker.
Comme elle dit. Comme elle dit. Elle le dit bien. Mais vous vous rendez compte, ce nom pour un vent, Stalker.
Stalker.
Vous vous rendez compte, mais ça paraît incroyable, quoi. Stalker pour un vent. Mais vous êtes qui, en fait, comme vent? Vous êtes quoi? Je ne vous connais pas, dans quelle région? Ben moi, je suis là, je rends des services. Là, par exemple, j'ai amené une jeune femme en haut d'une dune de sable. Bien. Et alors? Et sur cette dune de sable, est-ce qu'il y avait quelque chose de précieux? Ben, je ne sais pas, je ne connaissais pas la dame. Non, c'est une dune de sable, quoi, c'est du sable. Hein. Oui, alors il y a des trèfles à trois feuilles, il y a quatre feuilles, comme dans toutes les dunes de sable, ça c'est sûr. Ah oui, peut-être ça peut vous paraître précieux. Il y avait des asperges dorées. Et le jeune homme, qui a l'esprit vif quand même, il a dormi 70 ans, mais il a l'esprit vif. Mais c'est peut-être ça, ma montagne dorée, là où toute chose est précieuse. Oui, s'il y a des asperges dorées, vous pourriez m'y amener? Alors, il le regarde, l'homme, il lui dit, mais... C'est lourd un homme quand même, hein, faut avouer. Puis le regarde une deuxième fois, vous m'avez l'air d'un homme qui a perdu beaucoup de choses en chemin. Il n'a pas mangé depuis 71 ans, quoi. Donc c'est quand même beaucoup. Quoi. Bon, je veux bien vous amener au pied de la dune de sable, et après vous marchez tout seul. Alors, il a soufflé. Il est arrivé au pied de la dune de sable. Notre jeune homme, le jeune homme blond, éternellement blond, il a gravi la dune de sable. C'était éprouvant. Et quand il est arrivé sur le plateau de la dune, oui, il y avait des trèfles à trois feuilles, des trèfles à quatre feuilles. C'est la merveille du désert. Oui, il y avait des asperges dorées sur toute la surface. Tellement émouvant, toute cette poésie du désert. Mais il n'y avait pas de femme sur le sable. Elle n'était pas là. Alors le jeune homme s'est mis à genoux. Il a visité encore toutes les pièces de son esprit et de son âme. Il est resté longtemps face contre le sable chaud.
à cette pièce. En forme d'amande. Elle avait un petit sourire parce qu'elle avait les yeux entrouverts. Lui, il a dégagé le visage des cheveux qui le recouvraient. Puis il a pris contre lui, vous savez comme fait le soleil avec le cerisier, avec l'amandier aussi. Il le fait bien le soleil, de réchauffer et de donner de l'amour. C'était un bon moment comme ça. Et puis, quand il a reposé sur le sol, celle qui lui a pris le bras. Attends, regarde-toi dans mes yeux, qu'elle lui dit. Et vois comme tu es beau.
Voilà, le voyage se poursuit encore avec...
Bon, allez, j'y vais.
Avec Françoise.
Oui, s'il vous plaît. Merci. Bah oui, parce qu'il faut savoir quand même comment ils se sont rencontrés.
C'est pas merci. Si simple, hein, les hommes et les femmes. Moi, je dans la querelle du conteur assis et de la conteuse de... les contes, ça fait voyager. Hein. Donc on va prendre un vent et puis on va traverser l'océan et on va arriver en Amazonie, chez les Indiens Kashinawa, qui nous enseignent que, ma foi, au début des temps, il y avait des humains sur la Terre, mais ils ne savaient pas, ils n'avaient pas encore remarqué qu'il y avait des humains et des humaines, des hommes et des femmes. Ils vivaient en toute innocence, comme on dit chez nous. Et... un jour, ils sont en train de se baigner dans le fleuve et il y a un des garçons qui voit ce qui se passe entre les jambes d'une jeune femme. Il dit, mais attention là, mais qu'est-ce que t'as là? Mais t'es blessée? Attends, ne bouge surtout pas, on va faire quelque chose pour te soigner. Et très 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 délicatement, il la prend, il la porte et il l'emmène jusque... à la maison, il l'installe dans le hamac et il appelle tout le monde, regardez, elle est blessée et il faut trouver un moyen pour la soigner. Et en ce temps-là, ils avaient déjà remarqué, les humains avaient remarqué que certaines plantes pouvaient soigner. Donc ils se sont dit, il faut absolument trouver la plante qui va soigner cette blessure. Tous sont partis dans la forêt et chacun a commencé à malaxer une plante, à faire un onguent, une pommade, une crème. Et les uns après les autres, ils se sont approchés de la blessure et ils ont commencé à déposer la crème, l'onguent. Mais la blessure n'était pas soignée. Par contre, à certains moments, si l'un, par exemple, avait une verrue, une petite blessure, une ophtalmie, il se... que l'œil après, et on s'est aperçu que,
que les plantes soignaient d'autres symptômes, d'autres maladies. Et c'est ainsi qu'un grand nombre de plantes médicinales ont été découvertes. Mais la blessure, elle, la blessure initiale, était toujours ouverte et on ne savait pas comment la soigner. Les garçons s'est dit, c'est pas possible. Si c'est moi qui ai découvert cette blessure, il faut que ce soit moi qui la soigne. C'est sûrement ma mission. Alors il est parti au fond de la forêt, dans une clairière, pour méditer, regarder chaque plante, essayer de leur parler. Il se dit, oui, et la plante qui va soigner, elle va me parler, elle va me le dire. Et il est arrivé donc, dans cette grande clairière où il savait qu'il y avait une très grande diversité de plantes. Et là, il s'est mis en communication avec les plantes. Il essayait de trouver un silence intérieur pour comprendre les plantes, mais les bruits de la forêt, et puis alors, et deux singes. Non mais deux singes qui n'arrivaient pas de traverser comme ça la clairière, faisant des bruits, des cris, pas possible. Et tout d'un coup, il y a un des deux singes qui se plante là, juste devant lui, la queue dressée, et voit là, sous la queue du singe, exactement la même blessure que celle... l'autre personne qui ne savait pas encore être une jeune femme, et un autre singe qui s'approche avec une belle plante bien dressée et qui soigne la blessure. Mais j'ai compris, c'est le pénis et la vulve, c'est le sexe de l'homme et de la femme, et c'est ce jour-là que les deux mots ont été inventés, vulve et pénis, enfin dans leur langue. Et en même temps, il a senti que lui aussi avait une plante, ce petit bourgeon qu'il avait au milieu, là, c'était poussé, avait poussé en une belle plante, alors tout joyeux. Il rentre, il dit, venez voir, j'ai compris, j'ai trouvé la plante qui soigne. Venez. Alors tout le monde se rassemble autour de la jeune femme qui était toujours là dans le mac, et il lui demande l'autorisation de la soigner, elle accepte, et il la soigne. Et devant ce spectacle, ceux qui sont là, les humains, les humaines, s'aperçoivent que certains ont une belle plante dressée et d'autres une petite blessure faite de mousse et d'humidité et donc toute prête à être soignée. Et vous voyez comment sont les garçons? Non mais quand ils avaient vu la scène là, et n'avaient qu'un seul désir, c'est que leur plante dressée aille soigner la blessure initiale. Ils ne s'intéressaient pas du tout aux autres. Et ils ont commencé à aller soigner la blessure initiale de la première jeune femme découverte. Et elle, au début, on ne savait pas trop. Hein, alors, elle s'est laissée faire. Mais au bout d'un moment, quand elle a vu le premier jeune garçon venir de nouveau vouloir la soigner, alors là, non. Elle a pris la machette qui traînait là, à côté d'elle, et chac, elle l'a coupée. C'est pas moi, il y a une histoire qui raconte ça. Et en tous les cas, ce que disent les Indiens Kashinawa, c'est que le jeune homme en est mort. Et que c'est ainsi que, le même jour, par le même orifice, eh bien, sont arrivés sur la terre la vie et la mort. Et aussi que c'est ainsi qu'un très grand nombre de plantes médicinales ont été découvertes.
Une couleur. Dites comme ça, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Pour que le vert puisse raconter l'émeraude de la mer, l'acidulé du citron, la fragrance de l'herbe de printemps, la douceur de la mousse sur un tronc, il faut le féminiser en ajoutant à la fin un petit E. Le E du féminin, petit, parce que tout ce qui est féminin est petit et mignon. Verte. Voilà. En grammaire, si le masculin l'emporte, à l'inverse, le féminin est indispensable pour la compréhension. Pour beaucoup de mots, c'est terminant par une consonne muette. Ça, c'est nécessaire pour donner le son, la voix, l'orthographe correcte et surtout le sens. Il faut les féminiser. Le féminin comme clé de compréhension du monde. Mais je m'égare. Peut-être pas. Parce que là, dans ce que je dis, il y a convergence de plusieurs sujets. Convergence qui signifie aller vers ensemble. Convergence. C'est vrai qu'il dit comme ça, convergence. Ça fait comme si c'était trois mots. Convergence. Con. On dit que la mer, pas la mer émeraude, mais la mer émeraude au féminin, la mer des cons, est toujours enceinte, puisque le monde en est plein. Mais con, c'est aussi le sexe féminin, et alors on revient vers le début comme une boucle. Convergence. Ici, le ver, d'aller vers, perd un S et se métamorphose un petit animal qui creuse vers les entrailles de la terre, tout à la mangeant, l'excrémentant, la bonifiant pour qu'elle devienne féconde et verdoyante. Dans verdoyante, c'est sûr, il y a le petit ver de terre. Dans verdoyante, c'est sûr, il y a le vert des feuilles, mais qui a perdu le T pour rajouter un D, métamorphose lui aussi. Comme en italien ou en espagnol, ça devient verde, du latin viridis, qui signifie jeune fringant. Mais je m'égare. Ou peut-être pas. puisque cela rajoute un peu d'exotisme et de fraîcheur dans ce discours. Et oui, de nos jours, de partout dans le monde, la jeunesse s'évertue à voter vert. Convergence. Là, ce petit bout de mot, ça me rappelle un autre mot. Vengeance. Mais alors, la vengeance de qui, contre qui, pourquoi? Peut-être la vengeance de l'écureuil petit gris, fatigué de devenir chaussure de verre, V-A-I-R, pour une princesse, ou manteau pour un roi à Versailles. Petit aparté d'un Versailles, est-ce qu'il y a des vers en alexandrin ou des vers solitaires? Mais je m'égare. Ou peut-être pas. Peut-être la vengeance du vers à soi, qui ne verra jamais le vers du mûrier. À travers des yeux de papillon, sa vie écourtée vers un destin de tissu de luxe. Peut-être la vengeance contre un récit pervers déversé par un gouvernement sous couvert de combattre en tant que terroriste des adversaires et qu'en vertu tout en tenant à couvert les véritables histoires économiques, financières et de pouvoir qui verrouillent les libertés et l'abondance. Peut-être la vengeance de la petite vérole qui a été complètement éliminée, je vous l'assure, soyez tranquille, en nous faisant oublier que d'autres virus se réveillent à force de maltraiter la Terre. Alors cela devient virulent, ou peut-être on devrait dire virulent, en tout cas, quand cela atteint les corps, il n'y a plus de VR qui tiennent. On sort du virtuel et rentre dans le réel, dur comme le béton, vous vous en souvenez peut-être. Alors, peut-on peut-être parler de vertigence, avec un T, la vengeance du vert, avec un T. La vengeance du vert, avec un T. La vengeance du ver aussi, du petit ver. Lui qui continue à overer. Et peut-être sa vengeance pourrait être la vertigence dans la convergence des forces et des désirs. Lui, il continue à overer au véritable cœur de toutes ces questions. Alors, pour ce petit verre, levons un verre sous le signe du Verseau, qui est là, dans l'air, au cœur de l'hiver, assoiffé de mouvements divers, puisque gouverné par la planète Uranus. Le Verseau, sans les idées, les amis, les surprises, les projets, il s'ennuie à mourir. Alors, inversons le mouvement. Cet horoscope est gracieusement offert par le magazine féminin Elle. La boucle est bouclée.
Dont nous avons eu les faveurs tout à l'heure. Vers la tige. Ceci dit, toutes celles et tous ceux qui s'étaient déclarés tout à l'heure comme volontaires pour nous partager leurs imaginaires, je pense, l'ont fait. Est-ce que d'autres qui n'avaient pas cette idée au début de la soirée en ont trouvé l'envie dans le courant de celle-ci de prendre la parole et de nous partager une histoire? Il ne faut pas forcément avoir beaucoup d'années de compte pour le faire. place est ouverte. L'espace aussi, les oreilles également.
Les oreilles sont toujours prêtes à accueillir. Mais nous, on a parlé toute la journée déjà.
Oui.
C'est bien d'avoir encore envie. Puis demain,
encore une petite quand même, demain, ce serait bien. Hein.
Demain, il n'y a pas de maille de toute façon.
Oui, mais
il y a
bien.
Demain soir à peu près même heure.
Oui, mais il faudrait avoir une petite finale quand même, yémente. Une petite yémente.
Oui. Pour ce soir là.
Oui,
pour une petite finir. Ce soir pour.
Hein? Oui, mais... Oui. Oui. Moi, j'ai pas d'histoire,
moi. C'est quelqu'un. Non, ok.
Emmanuel, okay. Pas beaucoup parler toi aujourd'hui.
Non, c'est ça. Oui, c'est ça, t'as voulu nous réunir. Maintenant, on va les conséquences.
C'est qui, tu
veux? Là, je suis trop grand.
À gauche.
Encore. Ah oui, voilà, ah. C'est ça. C'était ça. La soirée touchait à son terme et allait venir le moment où il fallait décider qui parmi les conteuses et conteurs qui étaient passés, laquelle ou lequel allait recevoir la coupe en argent, celle pour la plus belle histoire, et la coupe en or, celle pour le plus beau mensonge aussi.
Ça me dit ça.
Hein?
C'est samedi. Ça.
C'est oui, non, c'est ouais, bon, on verra pour samedi. En tout cas, pour ce soir, le moment arrive à son terme et tout le monde avait bien raconté son histoire et chacun espérait, chacune espérant en son fort intérieur avoir au moins l'une des deux coupes dédiées. C'était sans compter sur la présence de Jimmy. Jimmy, il était resté assis au fond de la salle pendant toute la soirée. Il avait strictement rien dit. Jimmy, tout le monde le connaissait dans le village. Pantalon en tweed, épais, large chemise à carreaux, des larges bottes noires aussi. Jimmy, c'était un ouvrier agricole, payé à la journée, un taiseux. Il bossait bien, Jimmy, hein, ça tout le monde le savait. Et il parlait pas. Et la vlatipa, qu'avant la fin de cette soirée, il se lève et il vient s'installer devant tout le monde pour lui aussi raconter une petite histoire. Le Jimmy va parler. Alors là, on rappelle tout le monde, on dit la soirée n'est pas terminée, Jimmy va raconter une histoire. Oh, Jimmy, si, non, si, allez hop, tout le monde s'installe. Et là, le Jimmy, il est là et... Là, il y a le patron de la soirée qui va le voir et qui dit, Jimmy, attention, hein, t'as pris notre temps, t'as pris nos oreilles, si tu parles pas, c'est un gage. Aucun son, aucun bruit, aucune histoire n'a pu sortir de la gorge de Jimmy, qui a eu son gage. Le patron de l'auberge de la soirée qui lui a dit, écoute, tu te rappelles, j'ai une vieille barque verte et rouge en bordure de l'étang, elle prend l'eau, tu vas aller les couper. Jimmy sort du cabaret, il ferme la porte, laisse les rires et les golibés circuler sur son compte dans le cabaret, et il descend effectivement au contrebas de la falaise au sommet de laquelle l'auberge a été construite il y a déjà de nombreuses générations, et qui accueille chaque année ce concours d'histoire où il y a une coupe en argent pour la plus belle histoire, une coupe en or pour le premier mensonge, pour le meilleur mensonge. Le vla qui descend, et il y a au milieu un étang, il tire sur la corde, ramène la barque verte et rouge, délavée par le temps, prend la petite boîte en fer blanc qui est posée sur le montant du bateau, et floque, 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 il écope toute l'eau, floque, floque, floque. Et une fois que toute l'eau est écopée, il pose sa grande botte noire sur le montant du bateau, il prend appui pour sauter sur la berge, mais son pied glisse, il perd l'équilibre, il tombe cul par-dessus tête. Et se cogne violemment la tête. Et quand il revient à lui, il a dû perdre connaissance pendant un long moment parce qu'il a pu ses grosses bottes noires, là, il a des petites mules bleues, avec un beau petit popon bleu. Il n'a plus son pantalon en tweed épais non plus, mais il a une robe finement liserée d'or. Et sur le côté, un sac à main au fer noir argenté, il l'ouvre, il sort un poudrier aux émeraudes bleutées, il l'ouvre et oh, il admire le visage d'une femme d'une beauté sans pareil. Il ferme le tout, soulève sa robe, saute sur la berge. Là, un chien vient lui lécher le bout des orteils, suivi par un cheval monté par un jeune homme qui lui dit, bah alors, qu'est-ce que vous faites là, cette heure-ci? Et Jimmy qui dit, je sais pas. Il dit, mais vous venez d'où? Je ne sais pas.
Et vous allez où? Je ne sais pas. Et vous vous appelez comment?
Jimmy.
Ne vous inquiétez pas. Vous allez monter, vous n'allez pas rester là. Vous êtes toute mouillée. Vous allez monter avec moi sur mon cheval. Et on va grimper jusqu'à l'auberge qui est un peu plus loin. Tiens, ma grand-mère. Elle vous donnera des vêtements secs, une soupe fumante. Donc Jimmy, monté en croupe, a gravi avec le cheval et le jeune homme. Fallait jusqu'à l'auberge. La grand-mère les a accueillis, lui a donné des vêtements secs, une soupe fumante. Jimmy a passé toute la journée, toute la semaine, toute l'année. Et à la fin de cette première année, Jimmy s'est marié avec le petit-fils. À la fin de la deuxième année, Jimmy a donné naissance à un premier garçon. Les saisons ont cousu leurs fils les unes aux autres. Et au terme de cette troisième année, Jimmy a eu un deuxième fils. Les jours, les années, les amours se sont enchaînés et Jimmy a donné naissance à un troisième garçon à la fin de la quatrième année. À la fin de la cinquième année, la grand-mère est décédée et a laissé le cheptel de moutons, l'auberge et les terres environnantes à son petit-fils, sa femme et leurs trois enfants. Jimmy se rappelait sa vie d'avant, certains soirs, certaines nuits. Jusqu'à ce jour où les enfants, ayant bien grandi, ils avaient tous les trois, 13, 14 et 15 ans, ils sortaient d'une promenade dans les bois, sont passés à côté d'un étang. Jimmy a vu une vieille barque verte et rouge, délavée par le temps. Au milieu de l'étang, elle prenait l'eau, elle a dit à tout le monde « J'ai quelque chose à faire ». Elle a tiré sur la corde, a ramené le bateau sur le bord et monté à l'intérieur, a pris la petite boîte en fer blanc et floc, floc, floc. Elle a écopé toute l'eau, floc, floc, floc. Elle a remis son pied sur le montant du bateau, a pris appui pour pouvoir sauter sur la berge, mais son pied a glissé, elle a perdu l'équilibre, elle est tombée cul par-dessus tête et s'est violemment cognée la tête. Et quand elle est revenue à lui, elle avait ses grosses bottes noires, son pantalon en tweed épais, sa grosse chemise à carreaux. Il a dû perdre conscience pendant un bon moment, Jimmy a grimpé et il est rentré dans l'auberge. Il est allé voir le patron de la soirée de l'auberge. Il dit « Alors, ils sont où ?» Il dit « Comment ça, ils sont où ?» Il dit « Bah oui, mon mari et mes trois fils. Ils sont où ?» Il dit « Jimmy, ton mari et tes trois fils, c'est quoi cette histoire ? Assieds-toi. » Jimmy s'est assis et il a tout raconté. Son mari, ses trois fils, et il a tout vraiment tout raconté. Et là, le patron de l'auberge dit « Eh oh, t'es pas une belle histoire, ça ?» Et tout le monde a applaudi et Jimmy a eu la coupe en argent. Cette année-là, celle de la plus belle histoire. Il a pris la coupe, il l'a posée sur le bar et il a dit « C'est pas de votre coupe que je veux, c'est mon mari, mes trois fils. » Eh, c'est pas un bon mensonge, ça? Et Jimmy a eu la coupe en or aussi, cette année-là. Il l'a posée sur le bar et il a dit « Non, c'est mon mari et mes trois fils. » Il a pris son sac et il est parti. Alors si un jour, au détour d'une histoire, vous voyez un homme avec des grandes bottes noires, un pantalon en tweed maintenant élimé et une vieille chemise à carreaux, n'en doutez plus, c'est Jimmy. Écoutez son histoire, son mensonge et sa vérité. Il ouvrira les yeux, les oreilles et peut-être le cœur aussi. En tout cas, le conte est dit. Je le remets à la place, à sa place. Et merci d'avoir prêté vos oreilles, d'avoir prêté votre parole aussi aux autres paires d'oreilles. On reprend donc demain matin pour ceux qui le souhaitent et l'ont prévu, et demain soir pour une autre soirée comme celle-ci aussi, avec Gigi Bigot, avec Pepito Matteo aussi. Enfin, c'est pas obligé, non?
Oui, Gigi.
Et pour ceux qui sont venus de l'extérieur, on prend un petit verre, on fait passer un chapeau.
On prend un petit verre.
On prend un petit verre.
Bon, j'avais marqué un petit billet, les billets doux sont acceptés.
Et les billets doux sont acceptés. Et on mettra, oui, je sais pas, un chapeau si vous voulez. Bon, ben, on continue.
Allez, on va
ensemble là-bas. Merci beaucoup. Merci.